rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence. Nous nous retrouvons pour notre émission, comme chaque semaine, de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour, monsieur Nergardès.
Bonjour à tous.
Bonjour. Et donc, nous sommes dans le Gers, chez vous, à l'évêché d'Auch. Et nous parcourons pendant tout ce mois de juin la thématique de solidarité et jeunesse. Je vous propose qu'on parcourt un petit peu cette semaine le sujet des jeunesses, les jeunesses ouvrières chrétiennes, la jeunesse étudiante chrétienne, le mouvement rural jeunesse, etc. Tous ces mouvements qui ont été d'une puissance et d'une fécondité extraordinaire au milieu de ce siècle ou avant la Première Guerre, et puis dans les années 50, 60, 70, qui ont vraiment eu énormément de fruits, énormément de portée, et qui aujourd'hui peut-être sont moins visibles ou recrutent moins ou ont une part de voix qui a plus de mal à émerger. Comment est-ce que vous comprenez ce glissement ?
Je crois qu'il faut rappeler quelques éléments de l'histoire.
Oui, bien sûr.
La naissance de ces mouvements était liée à un souci de première évangélisation. Et cette première évangélisation ne pouvait se faire que de rejoindre les gens dans leur réalité concrète, et en particulier leur réalité de vie, dans des périodes où il n'y avait pas encore toutes les aides sociales qui peuvent exister aujourd'hui, qu'il y avait encore de plus grandes pauvretés qu'aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui il y a encore des très très grandes pauvretés, nous le savons très 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 bien. Donc le point de départ, c'était de partir de la vie des gens. J'ai déjà évoqué dans une émission précédente, les deux chemins possibles sur le plan théologique, une théologie descendante, on parle de Dieu, le catéchisme, on annonce qu'est-ce que Dieu, voilà, et puis on en tire les conséquences au niveau des actes et de notre humanité. Là c'est une théologie ascendante, on part de la réalité humaine et de ce constat
avec ce fameux triptyque voir, juger, agir.
Voilà, voir, juger, agir. Donc le voir, on part de notre humanité,
on part du voir.
Voilà, oui. Ça, là. Pour la deuxième étape, le juger, c'est faire un discernement à partir des réalités concrètes, mais éclairées par la parole de Dieu, éclairées par l'Évangile. Oui. Et puis, alors après, on est appelé à se décider sur une action à mener, donc agir, l'action que l'on doit mener et qui est éclairée par ce temps de discernement, mais qui part bien de la réalité humaine. Ça, c'est un premier point au niveau de la dynamique, de la naissance de ces mouvements. Le deuxième point qui est important, c'est que ça s'est élaboré dans un contexte où, au point de vue social, il y avait encore et puis des débuts, soit encore pour certains, soit des débuts pour d'autres, quelque chose qui était de l'analyse de la société dans un rapport de lutte des classes. Des séparations sociales trop criantes entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien, et qu'à ce moment-là, on était dans un contexte d'analyse dans les mouvements d'action catholique. Là, je parle des mouvements d'action catholique qu'on appelle aujourd'hui spécialisés, mais où, lorsque j'étais aumônier, les premières sessions que j'avais, c'était sur l'analyse marxiste de la société.
Oui.
Il y avait donc tout le poids de cette analyse venant de Marx. Il y avait un certain nombre de sessions nationales de la CO, l'Action catholique ouvrière, qui portaient d'abord sur cette réalité. Et qui s'expliquait, c'était à l'époque, les moyens d'analyse de la société. Parce que n'oublions pas que nous sommes le fruit d'une histoire et que souvent on fait comme pour un roman policier, on commence par lire le dernier chapitre et on relit les chapitres qui précèdent, mais on connaît déjà le résultat. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc il y avait toute une progression au niveau de l'analyse de la société, et qui du coup, dans le discernement, jouait d'une manière forte dans l'engagement qui allait être pris. Moi, je me souviens d'avoir été dans une équipe d'ACO, une soirée, je n'étais pas l'aumônier officiel, j'étais jeune vicaire, mais où il y avait les gros débats, voire des séparations, des éclatements qu'il y avait, si les gens de la CO étaient à la CGT ou à la CFDT. Et il y a eu des périodes où ça ne se parlait pas, même pour les célébrations eucharistiques, on n'allait pas avec l'autre. Alors, à certains moments, donc, il a l'éclairage qu'il fallait faire, si possible, avec douceur, mais dire, on a dit que justement dans le voir juger, dans le jugement, le discernement que l'on faisait, la parole de Dieu devait nous éclairer. Alors, comment on va pouvoir manifester au cœur même de nos différences, d'analyses différentes de la société, comment on va pouvoir s'engager? Mais on le fait ensemble dans la diversité des engagements, mais sans se jeter des anathèmes à la figure. Voilà. Il y a eu des périodes, moi je me souviens d'équipes d'ACO qui avaient volé en éclats suite à ces distinctions au niveau syndical. C'est un contexte historique qui est très important à rappeler. Ça a été dans ce même contexte d'ailleurs que c'était beaucoup développé et après a été repris par Rome, toute la question des prêtres ouvriers.
Et oui,
Hein, on est
et bien
dans toute
sûr.
cette période de l'histoire qui aujourd'hui peut faire sourire certaines personnes, mais n'empêche que c'était la réalité concrète,
Mais parce
y compris la
qu'aujourd'hui,
place de l'Église, quoi. Ça, c'est bon.
aujourd'hui, les jeunes ont déserté
Ouais.
les syndicats, ils ont déserté les partis politiques.
Ben
Aujourd'hui,
voilà,
les ouvriers,
donc.
ils sont dans les centres d'appel, ils sont
Oui.
plus du tout dans les usines ou etc. Donc, il ferait qu'il y a un glissement complet en fait de cet engagement des jeunes.
Voilà, donc ça c'est le troisième point
Ouais.
que j'allais évoquer, c'est que justement le glissement qui s'est opéré, c'est qu'aujourd'hui, plus personne, sauf les anciens combattants, donc là, il y a, entre guillemets, des intégristes, mais au sens de qui veulent garder intègre l'histoire et qui veulent la reproduire 50 ans après. Bon, ben là, à part ça, c'est quelques personnes, mais moi je n'en connais plus au sein des mouvements d'action catholique. Donc il y a d'autres analyses de la société. Il n'y a plus l'analyse prédominante d'avant. Alors en particulier avec le développement, j'ai beaucoup travaillé avec l'action catholique des milieux indépendants, avec l'ACI, avec la GIC, la GICEF, j'ai même été aumônier diocésain, j'ai été théologien expert dans l'équipe nationale de l'époque, où il y avait déjà eu ces affrontements. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'analyse qui prédomine, c'est plus un rapport de lutte des classes. Et ce qui a beaucoup atténué cette différence, c'est toute l'évolution des classes moyennes. Donc, ils sont à la jonction entre, qui ne sont pas des milieux très très riches, mais il n'y a plus cette opposition schématique, parce que c'était quand même un peu schématique, même si c'était au niveau de la visibilité, c'est ce que l'on percevait. Mais il n'y a plus cette grosse différence entre les très pauvres et puis les très riches. Il y a les classes moyennes qui se situent là. Et on le sait très bien, les classes moyennes, c'est toujours ce qui fait le tampon entre les deux. Et puis, souvent, au niveau des impôts, on le sait, c'est ceux qui souvent trinquent le plus lorsqu'il y a des réformes. Et encore en ce moment, les questions qui se posent avec toutes les réformes financières qui se font. Mais le point, c'est qu'on n'a plus cet affrontement d'autrefois comme tel. C'est plus diversifié. Et du coup, les analyses que l'on fait au niveau de la société ne sont plus. C'est comme le western où autrefois, dans les westerns, il y avait les bons et les méchants. Donc là, on savait de quel côté tu te mets, voilà la question qu'on pose. Maintenant, il y a une plus grande diversité. La conséquence, c'est que le plan institutionnel, l'institution, elle en a pris un coup. Parce que lorsqu'on appartenait soit à l'un, soit à l'autre, donc on choisissait un clan. Maintenant, il y a une multiplicité de propositions qui sont faites. Du coup, c'est plus dilué. Et à mon avis, c'est l'un des éléments qui joue. Ça n'engage que moi dans ces propos. Mais à mon avis, c'est un élément important qui joue. Il y a beaucoup plus de possibilités de se situer dans la société au niveau de l'analyse. Je parle bien au niveau de l'analyse du juger qu'avant.
Et pourtant, on a toujours besoin de ces agitateurs. On a besoin d'être déplacés, on
Oui.
a besoin d'être. Donc, on a besoin de leur voix, on a besoin de les entendre, mais on a l'impression qu'ils ont du mal à émerger ou à se faire entendre.
Oui, mais je dirais que l'exemple le plus typique que l'on peut prendre, moi en 68 j'étais encore dans le monde de la physique, avant j'étais physicien, bon peu importe, mais pour le 50e anniversaire de mai 68, on voit une centaine d'universitaires, d'étudiants à l'université qui peuvent bloquer une fac où il y a donc des milliers et des milliers de personnes. Mais à l'époque, c'était, même si on n'était pas directement engagé, il y avait au moins 40% qui étaient là. Donc là, j'avoue même un peu mon étonnement, ce qui ne fait que confirmer mon hypothèse au niveau d'analyse et de compréhension. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de monde. Quand on voit même les caméramans, ils cadrent pour faire croire qu'il y a une foule, mais en fait, il y a une centaine de jeunes qui sont là et qui bloquent. Il y a des dizaines de milliers qui veulent travailler. C'était pas du tout comme ça il y a 50 ans. Donc, si je prends cet exemple, c'est pour dire toute l'évolution qu'il y a de la société, qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus diluées. Il y a un autre point, mais on aura certainement l'occasion de revenir dessus,
oui.
C'est l'importance des réseaux sociaux.
Oui.
Et puis du numérique.
Oui.
C'est-à-dire que les convocations, ce n'est plus un affichage qu'on a à l'université comme on pouvait
oui.
avoir.
Oui.
Et puis avec le haut-parleur où on se baladait dans la rue.
On
ne
vient pas se retrouver pour en parler. On vient
tous,
pas...
Oui, alors maintenant, ça tweet de tous les côtés. Les convocations se font par les smartphones. Voilà, très bien. Donc on est seulement en train de commencer à découvrir l'impact de l'invasion des réseaux sociaux.
Notamment sur le lien.
Sur le lien et sur l'impact que ça va avoir au niveau même de la culture de nos sociétés prochaines.
Oui.
Ça, c'est là. Parce que ça devient la parole de référence. On
oui.
aurait dit autrefois la parole d'évangile.
On aurait dit autrefois la parole d'évangile.
C'est la parole de référence. Ça, c'est là.
Ça fera peut-être l'objet d'un cycle d'émissions complet parce qu'effectivement, le sujet est ample. Et en tout cas, pour le sujet qui nous concerne, solidarité et jeunesse, rien ne saurait remplacer le contact pour ce qui est de la solidarité. Et là, pour le coup, je crois que les réseaux sociaux ont... Après, il y a des exemples, c'est vrai, d'applications, mais...
Si je prends cet exemple, c'est que justement, tous les jeunes que je rencontre, là, ils sont toujours... C'est rare qu'ils me regardent, ils sont toujours oui. sur leur smartphone à envoyer quelque chose. Mais c'est aujourd'hui, le moyen de communication, c'est ça.
Oui.
C'est plus de s'interpeller directement comme personne... C'est toujours par la médiation et à ce moment-là, donc, il y a un codage qui se fait au niveau du langage, même le langage change, et un langage qui change beaucoup, ça amène un autre rapport sur le plan de la personne. Mais ça, c'est un autre sujet, mais n'empêche que pour Jeunes et Solidarité, comme c'est leur moyen de communication, c'est pour ça que j'en parle en conclusion de cette émission, mais c'est parce qu'eux, ils fonctionnent comme ça, et nous, les plus vieux, eh ben, on a le devoir aussi de vivre aujourd'hui. L'évangélisation, c'est pour aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup, Monseigneur, et on se retrouve la semaine prochaine.
Adi Schatz.
Rencontre avec nos évêques.